France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Nous sommes le samedi 15 mai, soyez les bienvenus sur France Musique. Félix Levaché est à la réalisation, Stéphane Poitevin et Youtou Diego Aclopez à la technique. J'espère que vous passez un agréable long week-end. Certains d'entre vous ont peut-être la chance de profiter du grand air ou de cette délicieuse petite pluie qui nous arrose ce matin. Alors restez bien au chaud. Quoi qu'il arrive, nous vous accompagnons jusqu'à 9h et voici le programme. À 7h45, le claveciniste Jean Rondeau partagera un croissant et un choix musical avec nous. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous parlera d'un chef-d'œuvre du XXe siècle, The Cave, opéra de Steve Reich. À 8h15, notre reportage. Sophia Anastasio nous emmènera sur les traces du violoniste Marc Vieillefond qui fait le tour de France à pied avec son instrument. À 8h30, notre invité sera le scénographe et président de l'Union des scénographes Thibaut Ciné. Enfin, à 8h50, Christophe Chassol nous plongera dans Wild Night, œuvre pour chœur et orchestre de John Adams. d'un matin de printemps, titre du nouveau disque du trio Helios, sorti fin avril. C'est aussi le titre de cette pièce signée Lily Boulanger, qu'on écoutait à l'instant. Danse vive, audacieuse, écrite en 1917, interprétée par ce jeune trio, Camille Fontenot au violon, Raphaël Jouan au violoncelle et Alexis Gournel au piano. Trio Helios fondé en 2014, qui sera en concert à la Folle Journée. Ce sera en région le 29 mai prochain au Château Gontier sur Mayenne à 19h. Qu'est-ce que ça fait du bien d'annoncer des concerts. Et puis France Musique accompagnera, comme chaque année, évidemment, la Folle Journée. 14 concerts, 20 heures d'antenne au programme. On vous déploie un dispositif exceptionnel pour vivre ensemble cette Folle Journée de Nantes. On vous donne donc rendez-vous les 28, 29 et 30 mai sur France Musique. Et juste pour le plaisir ce matin, cet extrait de la Simple Symphony de Benjamin Britten, Playful Pizzicato, deuxième mouvement, interprété eh bien par le London Symphony Orchestra, que dirigeait Benjamin Britten lui-même. 7h et presque 40 minutes, je vous propose un extrait du nouveau disque du claveciniste Jean Rondeau, disque baptisé Melancholy Grace, paru il y a une semaine à peine chez Erato, en partenariat avec France Musique, des œuvres du 16e et du 17e siècle, des compositeurs européens comme cet anglais John Bull, dont je vous propose ici Melancholy Pavane. Thank you. Et nous écoutions Jean Rondeau dans cette Mélancolie Pavane de John Bull, extrait de ce nouveau disque Mélancolie Grace, paru chez Erato en partenariat avec France Musique. Et c'est l'heure du choix musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner des Lève-Tôt. Bonjour Jean Rondeau.
Bonjour, bonjour Saskia.
Vous allez bien ?
Oui, très bien, merci. Et vous ?
Mais merveilleusement bien quand je vous entends. Et quand je vous entends jouer aussi avec cet extrait de ce nouveau disque dont on va parler ce matin, évidemment, Mélancolie Grace, dont je parlais à l'instant, qui raconte une histoire, un voyage. Un petit mot d'abord, Jean, sur le titre, sur ce fil rouge qui traverse le disque.
Alors bon, il y a plusieurs fils rouges qui traversent le disque, mais l'idée, voilà, c'était d'utiliser le thème de la mélancolie, mais différentes significations en fonction de notre époque, de l'époque des compositeurs qui figurent sur ce disque, et d'essayer de comprendre comment tout ça peut résonner communément, disons, à travers ces musiques, quoi, pour essayer de faire vraiment un gros résumé.
Un sentiment qui vous a traversé plus qu'un autre moment, en cette période un peu difficile.
Non, j'associerais pas forcément le choix de ce thème à la situation actuelle, parce qu'en plus c'est quand même, comme un projet discographique met quand même beaucoup de temps à se monter. Moi, c'était quand même des idées qui étaient là depuis très longtemps. Et puis en plus, disons que. En fait, ce sentiment de mélancolie qui résonne en fait au travers de ces musiques, mais n'a pas forcément cette teinte triste ou noire malgré l'étymologie du mot mélancolie, cette bile noire. Mais c'est vraiment au contraire, il y a quand même aussi parfois beaucoup de lumière au travers de ces musiques. Donc aussi d'où le titre. Qui n'est pas de moi, le titre de l'album, qui est un extrait d'un poème de Byron qui est dans le livret, qui est un peu aussi un point de départ. Mais d'où ce titre aussi, Mélancolie Grace, parce que je trouve qu'il y a vraiment aussi beaucoup d'ouverture, beaucoup de lumière et de transcendance, disons, au travers de ce choix musical, disons.
Et effectivement, on l'entendait, hein, on écoutait à l'instant cette pavane mélancolique de John Bull qui est effectivement très lumineuse.
Oui, surtout à la fin qui s'élève, quoi. Il y a une sorte d'élévation sur la dernière partie de cette pavane qui est très touchante.
Et qui est absolument magnifique, effectivement. Des compositeurs européens des 16e, 17e siècles, italiens, anglais, allemands, hollandais, réunis donc au programme de ce disque. Et puis vous jouez avec les oreilles des auditeurs aussi. Jean Rondeau, vous utilisez deux instruments différents. C'était aussi une volonté. Comment est-ce que vous avez choisi, en fonction de la pièce, l'instrument que vous alliez utiliser?
Ça, c'est un choix que j'ai fait. Donc, à la fois, il y avait des, disons que certains des instruments ont inspiré le choix de certaines pièces, clairement, sachant qu'aussi les instruments ont été un point de départ du projet, mais aussi j'ai aussi décidé un peu sur le moment parfois, voir comment l'instrument répondait comment il appelait pour jouer telle ou telle pièce. Il y en avait dont c'était vraiment une évidence aussi stylistique et expressive. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de sentir à quel point l'instrument guide l'expression en fonction de la musique qui est jouée. D'avoir aussi cette sensation où ces compositeurs ont ce coup de génie de savoir vraiment comment rendre vraiment très très expressif ce genre d'instrument, comme par exemple le virginal qu'on vient d'entendre, qui est un instrument assez spécial en fait, et assez différent aussi du clavecin, disons, traditionnel, même si c'est la même famille. Et par exemple John Bull, c'est typiquement l'exemple de quelqu'un qui écrit pour cet instrument en parvenant tout à fait à lui faire rendre toute sa saveur expressive.
Et toutes ses couleurs.
À 100%, quoi. Ouais, toutes ses couleurs.
Exactement. Instrument réalisé autour des années 1570, on va quand même le préciser. Donc, disque Mélancolie Grace, je le disais, paru chez Erato en partenariat avec France Musique. Chers auditeurs, courez pour acheter ce magnifique disque. Évidemment, on aura le plaisir de vous entendre en concert prochainement, Jean Rondeau, avec la réouverture des salles.
Oui, il y a quelques concerts qui se profilent avec la réouverture. Cet été un peu en France, mais d'ici cet été aussi, à l'étranger, en Suisse, en Espagne, en Allemagne. Donc voilà, ouais, il y a quelques concerts qui se profilent en effet.
Eh bien, on aura le plaisir de vous écouter, de vous retrouver sur scène très prochainement. Et puis j'irai regarder, vous me direz les dates, Jean, et puis j'irai dire ça à nos éditeurs la semaine prochaine dans l'émission. Ouais. Un petit mot sur votre choix musical. Qu'avez-vous choisi de nous faire entendre, Jean Rondeau?
Alors, je préfère pas le dévoiler. Ça passe juste après, c'est ça?
Exactement.
Voilà, donc ouais, c'est une chanson qui pourrait d'ailleurs même un peu faire écho à certaines chansons qui sont dans le disque, mais c'est pas du tout la même époque. Et en fait, vous m'avez demandé de faire un choix musical et je vous avoue, j'ai vraiment... j'ai eu une panne parce que c'était impossible pour moi, parce que j'ai récemment vraiment pas du tout écouté de musique depuis un an et demi, disons. Donc faire partager un truc que j'aurais écouté en ce moment, c'était un peu compliqué. Donc il y avait un peu de raisons. Déjà, donc j'étais en train de lire un roman dans lequel il y avait une strophe, un des couplets de cette chanson. Et puis en plus, enfin moi du coup j'écoute pas de musique, mais les personnes avec qui je vis écoute de la musique un peu de plus comme un rituel, qui rythme un peu, disons, la journée. Et donc voilà, c'était typiquement une des chansons qui était faite pour le matin, quoi. Donc voilà.
Eh bien, merci de la partager avec nous, Jean. À très bientôt sur les ondes de France Musique.
Long afloatin' shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your and you sang, sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fighting? But now my foolish boat is leaning, broken love sing, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, oh my heart, shies from the sorrow.
Sing to the Siren, Tim Buckley, 1970, ce magnifique choix musical de Jean Rondeau pour nous ce matin. Jean Rondeau qui était l'invité de Musique Matin le 12 mai dernier, une émission à réécouter sur francemusique.fr. Et puis lui qui participait aussi à cette grande aventure Scarlatti, l'intégralité des 555 sonates du compositeur. Et bien c'est à revoir en vidéo sur francemusique.fr. Et le 18 mai prochain, nous commémorons le 110e anniversaire de la mort de Gustav Mahler, né en 1911. À cette occasion, Françoise Monteil vous propose de réécouter dans l'émission Les Trésors de France Musique cet entretien de Claude Maupomé avec le musicologue, biographe et grand spécialiste de Mahler, enregistré en 1981. Il s'agit de Lagrange. Il sera diffusé en deux parties, lundi et mardi à 23h. Et puis mercredi 19 mai, concert d'archives, Le Chant de la Terre, par l'Orchestre National de France, dirigé par Paul Kletsky, enregistré au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. C'était en 1964. Cet anniversaire est aussi l'occasion de vous replonger dans la série L'âme sœur, diffusée sur France Musique en mars dernier. Série en 5 épisodes produite par Evelyne Bloch-Dano, qui raconte la relation entre Gustav Mahler et son amie musicienne Nathalie Bauer-Lechner. Série qui dérive de ce livre L'âme sœur de la même Evelyne Bloch-Dano, paru chez Stock en partenariat avec France Musique et que je vous offre ce matin. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr. Sur la page de l'émission Musique Matin, vous cliquez sur Contactez-nous et vous nous laissez la bonne réponse à cette question. Comment s'appelait la femme de Gustav Mahler? Est-ce Alma, Héloïse ou Althea? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Simon Rattle ici avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin pour ces quelques mesures de ce sublime adagietto extrait de la 5e symphonie en U dièse mineur de Gustav Mahler.
Revenez au cœur du concert. Dès le jeudi 20 mai, retrouvez le chemin de l'Auditorium de Radio France. Christian Macellaro, Bertrand Chamaillou, Marek Janowski, Martina Batic, Barbara Hannigan, Benjamin Grosvenor, Nico Franck, Asmik Grigorian, Jean-Guyenne Keras, l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France se réjouissent de vous retrouver. Informations et réservations, maisondelaradio.fr.
France Musique.
France Musique.
Excellent début de journée à l'écoute de France Musique, il est 8h. Et c'est l'heure de la chronique battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour mon cher Marc-Olivier.
Bonjour cher Saskia.
Aujourd'hui, retour au XXe siècle avec une œuvre que vous aimez tout particulièrement.
Oui, The Cave de Steve Reich et de sa femme vidéaste Beryl Koroth. Un opéra multimédia créé à Vienne en 1993.
Thank you. Marc-Olivier, qu'aimez-vous dans cette œuvre et qu'est-ce qui vous semble important et novateur ?
J'en ai vu cet extraordinaire spectacle qu'une seule fois, au Festival d'automne en 1993. Une sobre scénographie construite à partir d'une sorte d'échafaudage, 5 écrans, un ensemble instrumental et 4 chanteurs. Le sujet, qui rejoint d'ailleurs une actualité douloureuse, est le questionnement d'Américains, de Palestiniens et d'Israéliens sur la grotte d'Abraham, un lieu important pour les religions monothéistes. Sur plan musical, ce que j'aime chez Reich, c'est sa passion pour la voix, la ligne mélodique et la prosodie. Voici un extrait de Who is Hagar, dans lequel se mêlent voix parlée, polyphonie vocale et instruments.
C'est en quelque sorte un retour au motet ancien.
Oui, Reich est fasciné par le jeu sur le phonème, le mot, la répétition, l'allitération. Et ce qui est aussi extraordinaire dans The Cave, c'est le rôle de l'image, y compris lorsque l'on voit la main qui écrit le mot chanté ou parlé. C'était en quelque sorte un motet en 3D.
Mais tout simplement, et quel est l'ensemble vocal qui a créé l'œuvre ?
C'est l'ensemble Theatre of Voices, dirigé par Paul Hillier, un chef britannique qui s'est installé aux États-Unis. Cette formation a pour répertoire à la fois la musique contemporaine et la musique ancienne, comme quoi vous aviez raison. On les retrouve ici dans Proverbe, une autre splendide composition de Steve Reich, commandée par cet ensemble.
Proverbe de Steve Reich, interprété ici par Theater of Voices, dirigé par Paul Hillier. Merci beaucoup, Marc-Olivier, de nous avoir fait écouter cela ce matin.
C'est bien court, mais...
C'est trop court, hein, toujours. On se rattrapera la semaine prochaine grâce à vous, avec une nouvelle chronique, évidemment. Et puis, nos auditeurs peuvent écouter votre chronique en boucle en allant faire un tour sur le site francemusique.fr, bien sûr. Je vous retrouve la semaine prochaine, Marc-Olivier.
Avec joie, Saskia.
Bon week-end à vous.
Vous aussi.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et lundi soir, c'est un concert en direct de l'Alliance Française que nous vous proposons de 20 à 22h30, concert présenté par Clément Rochefort, avec la mandoline à l'honneur, instrument encore peu connu du grand public, mais le programme vous fera faire des escales à Venise, à Naples, à Vienne, à Londres. La mandoline classique sera au programme, et puis des destinations plus lointaines aussi. Julien Martineau à l'honneur sera entouré d'amis musiciens, je pense à la pianiste Vanessa Benelli-Moselle, Thibaut Garcia à la guitare, le baryton Florian Sempey, mais aussi la comédienne que nous connaissons bien sur France Musique, Julie Depardieu. Rendez-vous donc à 20h lundi prochain sur France Musique. Premier mouvement de ce deuxième concerto pour mandoline de Raffaele Calacci, interprété par Julien Martino, le concerto italiano Rinaldo Alessandrini. Julien Martino qui sera donc mis à l'honneur, lui et son instrument, lundi soir sur France Musique à 20h pour une soirée consacrée à la mandoline. 8h et presque 15 minutes pour notre séquence reportage ce matin. Sophia Anastasio s'est entretenue avec Marc Vieillefond, violoniste qui a entamé un tour de France de 14 mois à pied avec son instrument pour partager sa passion.
Début mars, nous prenions rendez-vous avec Marc Vieillefond. Le violoniste s'apprêtait à démarrer son Tour de France à pied. Quelques semaines plus tard, après plusieurs kilomètres avalés, nous lui avons demandé comment il allait.
Eh bien oui, ça va bien. Alors, il y a le tout petit changement, c'est que en fait, je ne suis pas en train de marcher parce que je suis resté un jour de plus à Saint-Avold, qui est une ville qui se trouve à peu près à 45 kilomètres de Metz. Et là, pour l'instant, je suis dans une chambre, ce qui est assez rare, finalement, de se retrouver dans une chambre plus de deux jours d'affilée. Voilà, je suis au repos aujourd'hui.
Depuis le 3 mars, Marc Vieillefond a en effet décidé d'enfiler ses chaussures de marche pour aller à la rencontre des gens avec un projet de randonnée musicale, une musirando qui ne serait pas née sans la crise sanitaire.
Moi, mon but, ça a été à un moment de faire quelque chose, tout simplement, parce que j'avais l'habitude de faire à peu près une centaine de dates par an dans le monde entier, et quand on se retrouve à faire mes zéro date, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Je me suis dit, il n'y a pas de concert, donc il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de public, mais le public, il existe, lui, et les musiciens, ils existent aussi. Donc je me suis dit, ben, je vais aller chez les gens, chez eux, leur proposer un petit concert, en échange de quoi, ben voilà, je suis donc logé, nourri. Des fois, c'est des mélomanes, ça peut être aussi des musiciens amateurs ou professionnels, et on partage toujours vraiment un bon petit moment de musique. Et c'était ça qui était le plus important pour moi.
Le musicien se promène ainsi d'école en école dans les villes, les villages, les conservatoires, les EHPAD et les médiathèques. Il y joue, donne des masterclass ou présente son projet. Ici, par exemple, on l'entend jouer au milieu de chevaux. Et la veille de notre entretien, il participait à un projet organisé par Christine Hoffmann, professeure de violon.
Ah, c'était extraordinaire, c'est bouleversant. Parce que donc cette professeure de violon, Christine Hoffmann, a organisé une petite randonnée dans une forêt. Il y avait tous ses élèves qui étaient là, plus des quelques violoncellistes. J'ai croisé d'ailleurs en plus d'anciens élèves de quatuor à cordes. Il y avait tous les parents, donc on était, je pense, à peu près une petite cinquantaine, à marcher dans la forêt et à s'arrêter tous les kilomètres pour faire une petite aubade. Donc on était au milieu des gens qui faisaient des jogging, du vélo, ou qui promenaient leurs chiens, quoi. Et il y a pas mal de gens qui se sont arrêtés. C'est vraiment très très émouvant.
C'est via la page Facebook Musirando et son site internet que les gens peuvent entrer en contact avec le musicien en fonction de son itinéraire. Pour l'instant, s'il a rencontré d'anciens élèves, ce sont surtout des personnes qui lui étaient jusqu'alors inconnues qui l'ont contacté. Et en échange de ses performances, une participation libre est proposée pour être versée à l'association Zaza Kelly.
C'est une association franco-malgache qui travaille beaucoup à Antirabe, qui est la troisième ville de Madagascar. Et là-bas, il y a des musiciens, il y a des artistes, il y a des comédiens, il y a plein de gens qui n'en ont pas de lieu pour répéter, pour se produire. Et j'ai trouvé ça chouette d'essayer de trouver des sous pour essayer de construire cette salle polyvalente dont le terrain a déjà été acheté. Donc les gens, je leur demande de faire un petit don à l'association Zaza Kelly via le lien Eloasso qui est sur le site internet de Musirando. Quand je vais travailler dans une structure, les conservatoires me versent une somme que moi je m'engage à reverser à l'association Zaza Kelly.
Marc Vieillefond marche en moyenne 6 heures par jour. Où est-il en ce moment, 5 jours après notre discussion?
Vers 8h20 du matin, ce samedi, je regarde tout de suite, pour pas dire n'importe quoi, et je serai entre... Je partirai de Reichshofen, donc je suis en route pour aller à Strasbourg. Voilà, Reichshofen en Alsace.
Rendez-vous donc en juin 2022 pour la fin de ce voyage, avec notamment une étape à Lyon le 21 juin prochain chez lui pour célébrer avec la ville la fête de la musique.
Et si vous souhaitez vous aussi eh bien, rejoindre Marc Vieillefond dans son Tour de France, le croiser peut-être au détour d'une balade et l'écouter, surtout toutes les informations sont à retrouver sur le site musirando.fr et sur francemusique.fr bien évidemment.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
L'adorer.
Le premier mouvement de ce deuxième concerto pour piano de Camille Saint-Saëns. Nous écoutions ici Bertrand Chamaillou, l'Orchestre National de France, et Emmanuel Krivine à la direction. Eh bien, des artistes, cette fois avec Christiane Macellaro à la direction, que vous allez pouvoir retrouver sur scène, puisque c'est le grand retour du public dans les salles de concert pour notre plus grand plaisir. Rendez-vous le 20 mai prochain, jeudi à 19h à la Philharmonie de Paris, pour entendre ce deuxième concerto pour piano de Saint-Saëns, mais aussi Berlioz, César Franck. Et si vous ne pouvez pas vous y rendre, sachez que France Musique sera de la partie, puisque le concert sera diffusé à 20h sur nos ondes, jeudi donc, et puis en images sur Arte Concert aussi, bien évidemment. Il est 8h30.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Les 28 et 29 mai prochains, l'Opéra de Lyon devait accueillir les Rencontres européennes de la scénographie, événement empêché par la crise sanitaire et reporté à la rentrée prochaine. Qu'à cela ne tienne, nous avons tout de même voulu ce matin nous intéresser à ces scénographes qui souhaitent voir évoluer leur métier, s'orienter vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Thibaut Sinet, scénographe et président de l'Union des scénographes. Bonjour Thibaut.
Bonjour Saskia.
Alors l'Union des scénographes, c'est quoi ?
Alors l'Union des scénographes, c'est le seul syndicat aujourd'hui professionnel qui rassemble les scénographes de spectacle, les scénographes d'exposition et les scénographes d'équipement, ainsi que les créateurs costumes. On a deux casquettes un peu à l'UDS, on a une partie syndicale où on défend le scénographe avec ses droits d'auteur, on travaille avec le ministère sur la reconnaissance du droit d'auteur, sur la reconnaissance et la modification du code du travail et de la propriété intellectuelle pour intégrer le métier de scénographe en tant qu'artiste, et non comme technicien comme on l'est actuellement. Et on travaille aussi pour la création du CNE, Centre National de l'Exposition, et qu'on aimerait pouvoir mener à bien avec le ministère. Ça, c'est la partie syndicale. Et il y a la partie expertise, où aussi on travaille toujours avec des partenaires publics. On travaille notamment pour l'extension du CNCS de Moulins en 2022, qui va ouvrir...
Centre National du Costume.
Centre National du Costume de Scène de Moulins, qui va ouvrir en 2022 son nouveau département consacré à la scénographie. On travaille également pour la participation de la France à la prochaine quadriennale de Prague de 2023. Et on travaille aussi avec, par exemple, la métropole de Lyon pour un projet de recyclerie culturelle à l'échelle départementale.
Donc, ça en fait du boulot.
Voilà,
en tout cas, c'est l'aspect développement durable qu'on va aborder ce matin. Quels sont peut-être les enjeux qui se posent aux scénographes aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, il y a différents enjeux qui se posent actuellement à nous. Il y a la partie droit d'auteur ou du droit, qui est vraiment un axe majeur aujourd'hui. Et il y a la partie développement durable, auquel on a envie de prendre part, parce qu'on est une part très active et importante dans la création de spectacles vivants. Et on a envie que l'UDS et les scénographes, comme les créateurs costumes également, apportent leur pierre aussi à l'édifice pour faire un spectacle responsable et d'allier éphémère et durabilité. C'est un peu notre enjeu.
Et c'est toute la difficulté aussi, peut-être ?
Ah, c'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'à l'UDS, on a créé des commissions. On a trois commissions importantes qui travaillent actuellement. On a une commission sur le costume, on a une commission sur le développement durable et une commission juridique. Donc c'est sur le développement durable sur lequel on est très actif en ce moment et sur lequel on a lancé une enquête justement en ligne, qui est bilingue, pour justement aussi avoir un point de vue de nos partenaires, des étrangers, de nos partenaires scénographes aussi européens, pour savoir comment eux, la problématique du développement durable est intégrée aussi dans leur pratique. Les questions se posent aujourd'hui. Il y a plein de questions, on n'a pas toutes les réponses, mais c'est justement, on a envie d'avoir un aperçu global de comment on peut faire évoluer nos pratiques.
Et on va revenir dans un instant sur cette enquête, bien évidemment. Thibaut Sinet, ce serait quoi une scénographie durable ?
Alors ça c'est une colle
aujourd'hui,
excellente question. aujourd'hui, je pense qu'elle n'existe pas. Elle va tendre à l'être, on l'espère. Il y a deux méthodes de pensée aujourd'hui qui se posent sur cette question-là. C'est si on garde le processus aujourd'hui de la maquette au plateau, avec une adaptation aujourd'hui, une réflexion du matériau, de réfléchir le matériau. Par exemple, aujourd'hui, on peut remplacer, si on se base sur les études du Festival d'Aix, remplacer le polystyrène par du liage compressé. Ça, c'est déjà une réflexion sur le matériau qui est plus vertueux. Il y a aussi une réflexion sur le châssis, le cadre, c'est-à-dire qu'on travaille avec un squelette du décor et sur lequel le décor serait une peau qu'on pourrait reposer dessus. Il y a toute une réflexion aussi sur l'assemblage et désassemblage des décors pour pouvoir les réemployer et conserver le maximum. Et puis il y a aussi toute une partie, j'ai envie de dire, sur le standard, c'est-à-dire travailler sur des formats standard des formats types et sans avoir de découpe, c'est-à-dire réduire aussi les déchets dans les découpes et dans la construction. Donc ça, c'est déjà une première partie de la réflexion. Puis il y a une deuxième partie de la réflexion qui est tout autre. On part du matériau. On pense la matière première qui est l'origine de la scénographie, c'est-à-dire qu'on oublie la maquette et c'est le point de ressource. On va dans les ressourceries où on récupère des décors. Ce qu'on a toujours tous fait en tant que scénographe, on a toujours commencé en faisant de point de ressource. Mais si c'est la matière qui est point de ressource du décor, ça suppose un autre processus de création.
Une adaptation.
Exactement. Et donc c'est le lieu, on crée un peu ce qu'on appelle une échelle à une maquette à l'échelle 1, une bauprobe, on va dire, et c'est le matériau qui va définir
la scénographie
et plus il y a plus le dessin avant qui passe en premier. Donc voilà, c'est aussi d'autres façons de penser la scénographie.
C'est deux possibilités de faire, bien évidemment. Mais quels sont alors les points de blocage?
Alors, il y a deux points de blocage qui sont très différents aussi par rapport à ces processus-là. Par exemple, sur le droit d'auteur, en partant si on pose la question sur le réemploi, donc déjà, quand on réemploie une scénographie, il y a déjà forcément les questions du droit d'auteur qui se posent. Puis, il y a un vrai blocage sur la certification ignifuge des éléments de décor. Faut savoir qu'aujourd'hui, un décor, quand on le valide, il faut un certificat ignifuge contre le feu, c'est-à-dire que le décor ne puisse pas prendre feu.
Voilà, c'est une substance qui rend ininflammables les objets.
C'est ça, c'est une substance chimique nocive. Donc ça, c'est un élément très important qui réduit l'inflammabilité du décor. Et aujourd'hui, quand on fait un réemploi d'un décor, la certification est pour l'ensemble du décor. Donc si on réemploie un élément de ce décor, il perd ses propriétés et son certificat. Donc ça, c'est une vraie question et pour la certification et pour essayer de trouver un nouveau produit. On aimerait bien que le ministère de la Culture nous accompagne ou d'autres ministères nous accompagnent aussi à réfléchir à un nouveau produit moins nocif qui puisse garantir aussi ces propriétés-là.
C'est ça que j'avais envie de dire aussi. Vous n'avancez pas seul. Il faut intégrer toute une chaîne d'acteurs. On pense évidemment au ministère de la Culture. Il faut faire avancer la réglementation, que ce soit en termes du droit d'auteur que vous évoquiez ou effectivement de ces matériaux ou de ces conditions d'utilisation. C'est compliqué. Vous êtes entendu aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, c'est compliqué de dialoguer avec le ministère de la Culture sur ces questions-là, parce que aujourd'hui, il y a différentes chaînes. Nous, on est déjà toute une chaîne de ce qu'ils appellent l'industrie culturelle et créative. Donc derrière nous, derrière le scénographe, il y a toute une chaîne de travail, de métier. Il y a les fournisseurs de bois, il y a les ateliers de construction, il y a les fournisseurs de tissus, il y a les ateliers de construction. Donc c'est déjà toute une chaîne très importante. Et puis en face de nous, on a différents ministères. Par exemple, pour les certifications ignifuge, c'est le ministère de la Sécurité. Il y a le ministère de l'Écologie, il y a le ministère de la Culture qui a un tout petit département consacré à l'écologie et pour qui pour l'instant le spectacle vivant n'est pas considéré. Donc il s'intéresse surtout à l'architecture et aux livres. Donc voilà, on aimerait beaucoup plus le sensibiliser à toutes nos problématiques actuellement autres que le public. Aujourd'hui, le ministère de la Culture s'intéresse beaucoup à la circulation du public et aux déchets des gobelets en plastique et des affiches.
Mais la scénographie, l'évolution de ce métier en fait partie, bien évidemment. Combien de personnes cela représente-t-il, l'Union des scénographes, Thibaut Sinet?
Aujourd'hui, on est à peu près une petite centaine à l'Union des scénographes.
On va écouter votre choix musical, Thibaut Sinet. Un petit mot sur cette compositrice, Louise Bertin.
Alors, Louise Bertin, c'est l'une des rares compositrices françaises du 19e siècle qui a composé un opéra qui s'appelle La Esmeralda, pour lequel Victor Hugo a accepté de rédiger le livret, de le modifier également, et puisqu'il le place sous le point de vue de Esmeralda. Et c'est un projet qu'on espérait mener avant la crise, qui nous a un peu interrompu, qu'on mène avec le metteur en scène Damien Robert et le chef d'orchestre Joël Soichet. Et on espère pouvoir voir le jour et redonner vie à cet opéra qui n'a jamais été monté sur scène depuis sa création.
Un extrait de cette ouverture de cet opéra, La Esmeralda de Louise Bertin, interprété ici par l'Orchestre National de Montpellier, Languedoc-Roussillon. Laurence Foster à la direction. Le choix musical de notre invité ce matin, Thibaut Siné, scénographe et président de l'Union des scénographes. On s'intéresse à cette commission développement durable lancée il y a un an par l'Union des scénographes, avec ce premier projet que vous évoquiez il y a quelques minutes, cette enquête lancée au mois de janvier auprès des scénographes sur l'éco-conception. L'enquête se clôture à la fin du mois. Vous souhaitez faire un état des lieux des différentes pratiques sur l'éco-conception, partager les bonnes pratiques également. J'aimerais qu'on revienne sur cette question de cette enquête. La démarche écologique est-elle une contrainte ou un atout pour vos créations artistiques? Est-ce que justement les scénographes vous ont partagé avec vous leurs envies, peut-être leurs réticences aussi au réemploi?
Alors oui, cette enquête, pour expliquer un peu aussi cette enquête, elle est née parce qu'on est un peu à un moment où c'est un peu le concours Lépine de l'invention de la machine qui lave plus vert. Et tout le monde y va un peu, on le voit bien, dans tous les sens, des nouvelles idées. Et on s'est dit que c'était important aujourd'hui de faire un état des lieux de comment on peut travailler différemment ou quelles sont aussi les initiatives qui existent, comme le Festival d'Aix ou l'Opéra de Lyon, qui ont déjà élaboré, qui sont
déjà très avancées
sur cette question-là. On voit que l'opéra est beaucoup plus avancé aussi que le théâtre. On travaille aussi de façon transversale. On travaille avec le cinéma, on travaille aussi avec les musées, avec nos partenaires scénographes d'expo ou décorateurs de cinéma. On voit aussi que les enjeux sont très différents, les pratiques sont aussi très différentes. Donc on essaye de tenir compte des expériences des uns des autres. Et c'est l'objectif aussi de cette enquête, c'est d'apprendre en France déjà des uns des autres. On est un peu comme une époque de la Renaissance où on redevient un peu tous étudiants. Et donc, on essaye tous de réapprendre un peu notre métier. Donc, c'est aussi le but de l'enquête, c'est de repartir sur des bonnes bases.
Vous évoquiez à l'instant l'Opéra de Lyon. Justement, est-ce que cette évolution, cette transformation est compatible avec les coupes budgétaires, observées à l'Opéra de Lyon? Je vous rappelle, le budget a été amputé de 500 000 euros.
Oui, alors ça fait partie un peu de nos inquiétudes aussi du moment. On le voit bien sur différentes maisons d'opéra à Lyon, à Marseille et certainement dans d'autres villes dont je ne connais pas, mais il y a des grosses coupes budgétaires qui sont organisées par les nouvelles municipalités ou par le gouvernement ou les mécénats aussi qui se réduisent de plus en plus. Et on sait très bien que pour nous, les coupes budgétaires, on sait que ça va impacter certainement les décors puisque les productions vont réduire la partie qui coûte cher et qui n'est pas forcément valorisable. On sait très bien que les chanteurs seront là, le chœur sera là, l'orchestre sera là, mais on sait que sur le décor, ils peuvent avoir une mainmise sur le budget qui va être important. Et donc, il faut aussi avoir une réflexion en sachant que la construction éco-responsable coûte parfois un peu plus cher aussi. Les charges aussi augmentent, les matériaux augmentent aussi beaucoup. Donc voilà, c'est des enjeux qui se posent beaucoup à nous aussi.
Voilà, qui va passer à la caisse au final, c'est une vraie question aussi, exactement, Thibaut Siné. Si vous souhaitez, si vous êtes scénographe de spectacle, d'équipement, d'exposition, créateur, créatrice de costumes, vous pouvez aller répondre à cette enquête sur le site de l'Union des scénographes, uniondesscénographes.fr. L'enquête est encore en ligne jusqu'à la fin du mois. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à partager. Vous aussi, vous avez certainement de très bonnes idées à partager avec vos... avec les autres scénographes dont nous parlons ce matin. En attendant, il y a cet autre projet de l'Union des scénographes, Thibaut Siné, c'est ce livre en cours de rédaction qui serait quoi, qui découlerait justement de cette enquête-là, mais d'entretien au sens plus large également.
Alors, le projet du livre, il est né un peu de l'annulation de ces rencontres européennes de la scénographie. L'idée, c'est de rebondir. Ça faisait déjà deux fois qu'on les reportait à cause de la crise qu'on connaît. Donc, l'idée, c'est de trouver un format aujourd'hui où on peut prendre le temps de la réflexion. On peut élargir aussi la réflexion à plein de gens. Donc, l'idée, c'est de garder un peu les thématiques importantes qu'on avait abordées, qui sont sur le spectacle vivant, sur le cirque, le théâtre, l'opéra, la scénographie de mode. Et d'avoir aussi un point de vue très large et de pouvoir essayer de réfléchir ensemble. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ce livre et de pouvoir mener et d'apporter cette réflexion à la quadriennale de Prague en 2023 et aussi à Moulins en 2022.
Thibaut Siné, vous êtes également scénographe, hein, je le disais, vous êtes président de l'Union des scénographes, mais vous êtes vous-même scénographe. On attendait à l'Opéra de Montpellier une création que vous signiez, Climat, justement, on en parle ce matin évidemment, création reportée à l'automne 2023. Cette création devait voir le jour dans le cadre des 30 ans d'Opéra Junior à l'Opéra de Montpellier. Est-ce que justement, puisqu'on parle de la jeunesse, des solutions peuvent être apportées par la nouvelle génération de scénographes?
Ah bah, tout à fait. Alors, je remercie déjà l'Opéra de Montpellier de nous avoir confié cet opéra, cette nouvelle création mondiale, Climat, du compositeur Russell Applewhite. La question qui se posait pour moi, comme pour le metteur en scène, c'était aussi d'être en cohérence avec le sujet, c'est-à-dire de faire une scénographie aussi un peu avec une pensée éco-responsable et de pas venir avec un gros décor alors que le sujet c'est sur le climat. Donc voilà, ça posait aussi dès le départ un cadre qui s'imposait et on espère pouvoir le porter en 2023 et de le présenter au public. Et donc on travaille, il y a beaucoup de vidéos dans ce projet-là et l'idée effectivement c'est d'impliquer aujourd'hui la jeune création, les jeunes artistes de lyrique et aussi les jeunes scénographes. On aimerait bien aussi importer et apprendre aussi un peu plus dans les écoles la question de l'éco-conception dans les écoles.
Eh bien, on en reparlera sur France Musique, bien évidemment. Saison prochaine, vous nous donnez rendez-vous à l'Opéra de Montpellier pour la création du Roi Pozzol d'Arthur Honegger. On va en écouter un extrait, évidemment. Merci beaucoup, Thibaut Siné, d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle le site uniondesscénographes.fr. Vous pouvez aller aussi faire un tour sur la page Facebook de l'Union des scénographes pour participer à cette enquête et vous tenir informé. Merci Thibaut et à très bientôt.
Merci beaucoup Saskia.
L'entrée du chocolat espagnol de Grand Matin, extrait des aventures du Roi Pozzol d'Arthur Honegger, le New Ensemble dirigé par Ed Spaniard ici, opéra à découvrir sur la scène de l'Opéra de Montpellier, ce sera la saison prochaine. Il est 8h50. Bonjour Christophe Chassol.
Eh bien bonjour Saskia.
Vous allez bien?
Je vais très bien et vous?
Mais merveilleusement bien.
Oh, bon, génial. Et vous savez, je vais vous parler du premier compositeur de la première chronique que j'ai faite avec vous.
C'est vrai?
C'est le même compositeur.
John Adams. Oh là là, et quelle mémoire.
Eh ben oui. C'est parti, on va écouter quoi? On va écouter Harmonium un petit peu. Oh, ces changements d'accords. On dirait de la pop. J'attends le prochain changement d'accord. Comment tu penses? C'est la musique classique qui fait de la pop et qui rend les choses accessibles. J'adore. Ça, on peut faire écouter ça à tout le monde et tout le monde va comprendre et aimer, quoi. C'est une musique classique qui laisse pas les gens sur le côté, je trouve.
Oh, mais il y en a plein d'autres. On va pas se lancer dans ce débat aujourd'hui, Christophe.
Ah bon?
Ah oui, on peut tout écouter comme ça.
On peut tout écouter, ouais.
Bah, oui.
En tout cas, celle-ci, elle tend bien la main. Elle est séductrice et en même temps, elle est sensuelle et en même temps, elle est exigeante. C'est la marque aussi du minimalisme, enfin de la musique, bon, ce qu'on appelait le minimalisme, la musique répétitive là, des années 70. Et donc, John Adams, c'est bien le fils spirituel là, de Steve Reich, de tous ces gens-là. Sauf qu'il est encore plus dans la séduction, je trouve. Ben voilà, les changements d'accords, c'est ça qui m'intéresse, c'est le fait qu'il se soit un choix d'accords très moderne, ça veut rien dire moderne, mais plus contemporain que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans la musique classique, quoi. Donc il est né en 47, on le sait, John Adams, il est super, vous renseignerez sur lui. Moi je vous parle d'harmonium, c'est une pièce qu'il a écrite en 1980, je crois, 80-81, et c'est une pièce pour orchestre et chœur, 90 chanteurs quand même, c'est beaucoup, hein.
C'est pas mal.
Ouais. Sur des textes d'Emily Dickinson. Donc là, on écoutait Wild Nights et on écoutait la fin de Wild Nights. Moi, je voudrais vous parler donc du début, de comment ça commence, le Wild Nights. C'est une longue introduction avec des basses, des cuivres dans les registres du bas. Voilà, c'est comme une espèce de préparation à une explosion, quoi. Un peu comme dans Shaker Loop. Je vous souviens, on avait déjà parlé de Shaker Loop où il imite le vent avec un Septuor à cordes. Là, c'est... Voilà, on va écouter le premier changement d'accord. Voilà, là on est après une longue intro, on imite le vent, tout ça pour une explosion. Et on va voir notre première basse tant méritée. On retient son souffle et... Quel bonheur! C'est fou! On donnerait une armée à l'attaque!
Oui, c'est vraiment ça!
Les cuivres envoient des flèches et tout ça! On va continuer pour voir ce qui se passe ensuite. Voilà, les accords de cuivre. Un peu comme du pointillisme, vous voyez, ils envoient des petits accords de cuivre pour décrire l'accord. Et on va voir notre basse, enfin. Oh, voilà la basse. Le ré bémol. C'est très satisfaisant comme musique, je trouve. On a ce qu'on attend, ce qu'on mérite, la basse qui nous dit quel est le morceau, qui nous dit, voilà les gars, je change de basse, je change de note de basse, donc je change l'ambiance, quoi, je change la, ce que me dit l'accord. Je vous dis, l'accord me dit là, bon, je sais pas exactement, justement on met de la musique pour pas mettre des mots, mais un autre extrait là où. Voilà, là on va changer. Là on est dans le suspens, dans la préparation au tragique. Oh oui. Là, les trombones. Ouais, là, on est dans les trombones qui glissent comme ça. Moi, je suis dans une expectation, quoi, une attente. J'ai envie de quelque chose. J'ai envie de la basse. J'ai envie que la basse revienne, quoi. Alors, écoutez-moi ça. Et le dernier changement d'accord, alors, pour moi, je l'ai appelé Matrix parce qu'il ressemble vraiment au changement d'accord qu'il y a dans. Voilà ça. Cette longue tenue de cuivre. C'est Matrix. C'est un changement, c'est de la science-fiction. Voilà, c'est un balayage d'accords comme ça. On dirait un sac qu'on secoue, quoi, un sac d'accords qu'on secoue. Vous voyez, on donne des coups d'accords, quoi.
Et puis on monte.
Ouais, ça fait que monter, mais l'harmonie en fait descend, peut monter ou descendre derrière la basse, peu importe.
Mais en tension.
En tension, ouais.
Il y a un dernier extrait.
Et oui, un dernier extrait, le climax. Ces grands balayages. On est sur un gros mi mineur, très simple.
Merci Christophe pour votre choix varié chaque samedi dans cette émission. On peut passer d'il y a deux semaines à A$AP Rocky à John Adams aujourd'hui. Moi j'adore. Merci Christophe.
Avec plaisir.
À la semaine prochaine.
Salut.
Bonjour Gabriel Oliver Aguillon.
Bonjour Saskia.
Quel plaisir de vous retrouver.
Mais oui, absolument. Si vous voulez, vous venez prendre un café après dans le studio.
Mais grand plaisir.
De loin,
pour vous écouter de loin, bien sûr, évidemment. Alors, j'avais juste envie de vous raconter une petite histoire sur notre concours du jour. Il fallait deviner le prénom de la femme de Gustav Mahler. Un peu facile, Alma. Mais j'ai reçu un mail de Alma, 9 ans, qui apprend le violoncelle au conservatoire de Tarbes et qui aime beaucoup nous écouter.
Elle s'appelle Alma.
Oui.
Bon, oh.
C'est mignon.
Bah oui, c'est chouette.
Bah, je peux déjà lui dire qu'elle a gagné le livre que j'offre.
J'imagine
ce matin.
Qu'elle a été sélectionnée, la
Mais
petite.
Évidemment. Ah, c'est le hasard complet, hein.
Ah bon?
Oui. L'âme sœur, livre d'Evelyne Bloch-Dano, eh bien, lui sera envoyé très prochainement.
Je pense qu'elle va le lire.
Bah, j'espère bien. Et puis qu'elle nous écrira aussi. Gabriel, je vous laisse pour France Musique est à vous. Le temps de remercier l'équipe Marie-Ferdinand, Félix Levaché, Stéphane Poitvin et YouTube Diego Aclopez. Et merci à vous, chers auditeurs. Bon plaisir avec Gabriel et à la semaine prochaine.
À bientôt.
À bientôt.
À réécouter sur francemusique.fr.